Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et en tout cas je suis ravi de pouvoir me tenir devant vous et de partager ce passage de Éphésiens. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles pour ceux qui les ont ou allumer vos smartphones. Et c'est du chapitre 5 verset 3 au verset 14. Mais avant ça je vais prier. Seigneur notre Dieu, je te remercie encore parce que tu nous donnes ce souffle de vie, c'est toi qui nous a créés, c'est toi qui nous a fait naître de nouveau aussi. Et c'est par grâce, nous ne le méritons pas. Et Seigneur, c'est par grâce que moi-même je suis sauvé et que je me tiens ici devant l'Assemblée, Seigneur. Et je te prie pour que tu guides tout ce que je vais dire, que tu puisses enlever tout ce qui vient de moi, mais que vraiment tout ce que je dis, ça vienne de toi, Seigneur. Seigneur, je te prie pour nous tous, tu vois qu'on a déjà mangé, on est peut-être en train de digérer, et je te prie Seigneur que pendant cette demi-heure, Seigneur, on puisse vraiment nous plonger dans ce que tu veux nous dire à travers ta parole, parce que nous croyons fermement que ta parole nous parle encore aujourd'hui et qu'elle s'applique encore à nous aujourd'hui. Je te prie ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, d'habitude, ce que je fais, c'est que je résume un peu ce qui s'est fait les autres fois, et je présente aussi un peu le contexte de la lettre aux Éphésiens, mais on est au chapitre 5, donc je ne vais pas aller trop longtemps dessus. Je vais surtout présenter rapidement le contexte en deux phrases. Est-ce que juste... Donc la lettre aux Éphésiens, donc c'est une lettre qu'on appelle une lettre circulaire, c'est-à-dire une lettre qui était d'abord adressée à une église, qui ensuite avait pour... Enfin, le but, c'était qu'elle échange et qu'elle le fasse tourner dans les autres églises pour qu'ils puissent bénéficier de l'enseignement de l'apôtre Paul. Donc, elle a été écrite par Paul, qui était en prison vers les années 60, après Jésus-Christ. On sait qu'il y a une partie doctrine, donc Éphésiens chapitre 1, verset 3, donc, qui est conclue par la prière de Paul. Donc, ça parle de l'unité en Christ, ça parle de la bonne doctrine, l'orthodoxie. Et de l'autre côté, on a Éphésiens 4, à 6, chapitre 4 à 6, une partie application de la doctrine, ce qu'on appelle l'orthopraxie, l'unité de la foi en Christ. Unité en Christ, ensuite unité de la foi en Christ. Et la semaine dernière, si vous étiez avec nous, nous avons vu avec notre orateur David Dixon, nous avons vu que le chrétien, plusieurs choses sur le chrétien. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, passer ? Parce que je crois que ça ne marche pas trop. Donc c'est une liste de choses, nous avons vu que le chrétien doit se comporter d'une manière digne, supporter les uns les autres dans l'unité, faire partie d'un même corps qui est l'Église, ne pas se comporter comme des non-chrétiens, laisser le Saint-Esprit renouveler la pensée, dire la vérité, ne pas laisser la colère le consumer, ne plus voler, ne pas dire de choses mauvaises avec sa bouche, parler pour dire des paroles édifiantes, ne pas attrister le Saint-Esprit qui vit en lui, être bon et rempli de compassion, pardonner comme Dieu l'a pardonné en Christ, imiter Dieu, en suivant l'exemple de Christ qu'il a aimé et s'est donné comme une offrande et un sacrifice à sa place. Nous avons vu toutes ces choses. Et justement, dans ce chapitre 4, Paul parle de la vie nouvelle. Ça, vous avez vu ça avec Mike il y a deux semaines. Le fait de se débarrasser du vieil homme, renouveler l'intelligence, revêtir de l'homme nouveau. Et ensuite, il donne cette liste de conseils qui est là. Et ces conseils, je les appelle des conseils actifs. Parler en bénissant, ne pas voler, dire la vérité, ça nous encourage à agir, à être actif. Et juste après ça, chapitre 5, verset 1 à 2, il conclut sur le fait d'imiter Christ. Pour le passage d'aujourd'hui, chapitre 5, verset 3 à 14, je propose un découpage en deux points. Si tu peux passer, Denis. Donc, et ces deux points parlent de la lutte contre le péché et de l'aide du Saint-Esprit dans cette lutte. Donc, premièrement, nous allons voir comment couper le péché à sa racine, verset 3, verset 5. Paul qui s'attaque à la racine du péché, ce n'est plus des ordres, des conseils qui sont actifs, mais là, il parle de s'attaquer à la racine directement. Et enfin, nous allons voir comment marcher dans la lumière, verset 6 au verset 14. Et Paul parle de la lumière qui triomphe des ténèbres. Donc en fait, ce que vous allez voir dans ce passage, c'est que Paul y rappelle des péchés auxquels les Éphésiens et donc nous-mêmes, on peut être entraînés encore à faire sous l'influence d'autres personnes. Et Paul veut rappeler que ces péchés, c'était le lot de l'ancienne nature. Mais que maintenant qu'ils sont nés de nouveau, qu'ils sont en Christ, ils ont une nouvelle nature. tout ce qui est passé, c'est passé. Et tout ce qui est nouveau est nouveau, tout à fait. Nous avons cette nouvelle nature. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Et nous ne devons pas vivre comme si nous avons encore notre ancienne nature. Nous devons vivre conformément à notre nouvelle nature. Nous sommes des personnes sanctifiées par Dieu. Nous sommes des saints, verset 3. Pas parce que nous comportons bien, mais parce que Jésus-Christ a versé son sang à la croix pour nous. Vous êtes prêts ? C'est parti. Couper le péché à sa racine. Au verset 3, il est dit que le péché ne doit pas même être cité. Il faut couper à la racine. Et ce péché se manifeste sous forme différente, et il y en a trois qui sont utilisés dans ce verset. L'immoralité sexuelle, l'impureté et la soif de posséder. Alors on va regarder ça un peu de plus près. Donc par rapport à l'immoralité sexuelle, elle concerne toute la sexualité qui n'est pas conforme à la sexualité biblique, c'est-à-dire le cadre du mariage. On peut penser à fornication, l'adultère, c'est bien connu. Cependant, nous pouvons tous être touchés par l'immoralité sexuelle. Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, verset 28, que si un homme regarde une femme avec convoitise, il a déjà commis l'adultère dans son cœur. En d'autres termes, nous pouvons pécher en pensée. C'est la raison pour laquelle la pornographie est très dangereuse. De simples images peuvent nous faire aller loin dans nos pensées et même affecter nos actes. Mais Paul va plus loin. Il nous dit de ne même pas en parler. Pour ne pas pécher en acte, ne péchons pas en pensée. Pour ne pas pécher en pensée, n'en parlons même pas. Je suis moi-même dans une entreprise où il y a 70% de filles à peu près à mon âge. Forcément, elles parlent beaucoup de soirées, de leur code vestimentaire. Elles ne se gênent pas pour aller dans les détails. Elles ont l'impression qu'elles sont que entre filles. Mais quand ça va trop dans les détails, je suis parfois obligé de quitter la pièce ou de mettre mon gros casque avec pour écouter de la musique. Parce que le fait, en fait, de parler de ces choses détaillées sans qu'elles ne se rendent compte peut me faire imaginer des choses. Et il faut savoir être radical avec les risques. N'en parlons pas, point. Comme application pour nous aujourd'hui, nous pouvons voir que tout ce qui peut nous tenter, il faut l'éviter. Évitons même d'en parler. Par contre, je n'ai pas dit de ne pas confesser. La redevabilité, je pense, dans les groupes de croissance notamment, est importante et biblique. Galates 6, verset 2, portez les fardeaux les uns des autres. Jacques 5, verset 16, confessez les péchés les uns aux autres. On va voir maintenant par rapport à l'impureté. L'impureté, pour comprendre l'impureté, il faut comprendre la pureté. Être pur, c'est être parfait devant Dieu. Jésus nous a lavé de nos péchés, donc il nous a rendus purs, il nous a purifiés par son sang à la croix, une bonne fois pour toutes. Et tout ça, c'était parce qu'il a été le sacrifice qui a été offert par Dieu. C'est ainsi que nous sommes considérés comme parfaits devant Dieu, alors que nous savons très bien, au fond nous-mêmes, que nous ne le sommes pas. Or, nous savons que nous péchons encore, on l'a vu, en acte, en pensée, à cause de notre chair. Bien sûr, nous sommes sauvés, comme j'ai dit tout à l'heure, le Saint-Esprit vient en nous, mais nous devons encore lutter parce que nous vivons dans ce corps de chair. Mais lorsque nous serons au ciel, avec nos corps glorieux, nous n'aurons plus à lutter parce que nous aurons nos corps glorieux, il n'y aura plus la chair. Soyons donc encouragés et consolés. Et de la même manière, Jésus exhorte ses disciples dans Matthieu 5, verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Il exhorte les disciples à agir en tant que personne rendue parfaite par le sang de Jésus. Nous ne laissons donc rien d'impur par rapport à nous toucher. Cela peut concerner le domaine de l'impureté, comme on l'a vu au niveau sexuel, mais pas seulement. Les jeux vidéo, les films, les séries, la musique peuvent nous entraîner vers la pente glissante de l'impureté, vers d'autres péchés plus subtils, comme par exemple l'impiété, l'orgueil, l'impatience, l'irritabilité, l'énervement, la colère. Et on a un exemple, par exemple, dans Philippiens 1, 17, Paul il parle de l'annonce de l'évangile qui est faite par des personnes qui ont des dispositions impures, des intentions qui sont impures. Et il ne parle pas à ce moment-là de l'immoralité sexuelle, mais de leurs intentions derrière. Application pour nous aujourd'hui, ne parlons pas des choses qui peuvent nous mener à l'impureté. Ça peut être des rumeurs, ça peut être des paroles dites avec hâte, ça peut être des soirées mondaines, etc. N'en parlons pas. Troisième chose, la soif de posséder. J'ai toujours cru, pendant très longtemps, pendant le début de ma vie chrétienne, que les péchés sexuels étaient placés au-dessus des autres péchés, que c'était plus grave en fait. Or, dans ce verset 3, la soif de posséder, ou la cupidité dans d'autres versions de la Bible, c'est un péché qui est cité aux côtés de l'immoralité sexuelle. Cela indique donc qu'il est tout aussi important. En s'appuyant sur d'autres versets, notamment 2 Pierre 2, verset 14, nous pouvons voir qu'il y a un lien entre les péchés sexuels et la soif de posséder. Donc, si vous avez une Bible, n'hésitez pas à consulter. Et par soif de posséder, en fait, on entend on parle de chercher à posséder des choses matérielles, physiques, en croyant qu'elles pourront satisfaire nos besoins les plus profonds. Bien sûr que manger lorsqu'on a faim, c'est évident, c'est, entre guillemets, c'est normal, mais je ne suis pas en train de parler de ce type de possession. C'est plutôt le fait de ne jamais être satisfait jusqu'à ce qu'on possède quelque chose. Prenons un exemple de nos jours, Jean-Charles. Jean-Charles a grandi dans un foyer chrétien, c'est un personnage fictif. Ses parents sont riches et lui achètent assez facilement tout ce qu'il réclame. Janvier, c'est iPod. Mars, c'est iPad. Mai, c'est iPhone. Juillet, c'est iMac. Septembre, c'est iWatch. Mais Jean-Charles reste un éternel insatisfait. Arrive décembre, bientôt Noël, il est déjà en train de lorgner sur les produits Samsung, parce qu'ils sont plus robustes et plus sûrs, nous le savons bien. Cependant, JC n'est pas heureux. Il a cru que, à force de posséder toutes ces choses, il a cru que cela pouvait le rendre heureux. Il a cru ses publicités, mais également ses amis qui le conseillaient. Frères et sœurs, nous sommes sortis nus du ventre de notre mère. Nous sortirons nus de ce monde à notre mort, comme le dit Job. Et c'est la raison pour laquelle Jésus, dans Matthieu 6, versets 19 à 20, dit de ne pas amasser des trésors sur la terre, mais dans le ciel, parce que, et là c'est très important, là où est ton trésor, là est ton cœur. Colossiens 3, 2, Paul dit également de s'attacher aux choses célestes plutôt qu'aux choses terrestres. Et on trouve juste après le verset 5 qui applique ce verset 2. Faites mourir ce qui est terrestre en nous, à savoir l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder. Colossiens 3, verset 5, qui est vraiment semblable à Éphésiens 5, verset 3. Et la seule chose ou personne qui puisse satisfaire nos besoins les plus profonds, c'est Jésus. Jésus est mort pour que nous ayons la vie en abondance. Ne vivons donc pas comme si nous n'avions pas toutes les richesses spirituelles qu'il nous a déjà données. Ne vivons pas comme nous étions autrefois à essayer de posséder des choses comme les gens autour de nous. Ces trois choses sont des idoles. Et lorsque nous sommes touchés par l'un de ces trois péchés, nous les plaçons au-dessus de Dieu. Et Dieu les a en horreur. Dans Colossiens, Paul rappelle que nous marchions selon ces péchés lorsque nous n'étions pas convertis. Mais maintenant que nous sommes une nouvelle créature, grâce au Saint-Esprit qui vit en nous, marchons selon l'Esprit et non plus selon notre ancienne nature. Et ce combat va durer toute notre vie. C'est ce qu'on appelle la sanctification. On a beaucoup insisté sur ce terme, et je pense que vous le connaissez maintenant, mais c'est la sanctification, c'est le combat de la vie chrétienne. Mais comment appliquer cela dans notre vie, Clément ? Vous allez me dire, Paul dit au verset 3 de couper le péché à sa racine, de ne même pas en parler. Si nous savons que discuter du dernier gadget à la mode peut nous faire chuter, nous faire croire que nous serons plus heureux en le possédant, n'en parlons pas. Et comme je l'ai déjà dit, je côtoie beaucoup de filles dans mon travail, elles font souvent du shopping, elles racontent ce qu'elles achètent, etc. Et quand elles reviennent, elles sont toutes heureuses parce qu'entre midi, on peut prendre le temps qu'on veut, donc ça peut être 2 heures. Et elles ont des réductions à 9,9, moins 30% parce qu'elles sont habillées en robe, etc. Donc je suis un peu au courant maintenant. Et en fait, quand elles reviennent, on a l'impression qu'elles sont heureuses. Mais juste après, elles ont un petit événement qui ne se passe pas très bien lié au travail, et ça y est, ça retombe. L'émotion retombe. Acheter ces choses peut certes provoquer une joie, mais celle-ci est éphémère. Donc vous avez compris l'application, ne faites plus de shopping, sauf pendant les soldes, et n'achetez plus de matériel high-tech, sauf si vous en avez vraiment besoin. C'est une blague. Au verset 4, Paul entame une autre mise en garde, les paroles qui sortent de notre bouche. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui parlent du danger de notre bouche, et là je vais en citer juste un, c'est Jacques 3, verset 4, qui dit que notre bouche, elle est telle que le gouvernail d'un navire, elle dirige en fait le navire, elle dirige notre corps. Et Paul, on l'a déjà vu avant en fait avec David Dixon, Éphésiens 4, verset 29, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Et donc ici au verset 4, Paul parle de paroles grossières, stupides et équivoques, et qu'il faut également couper à la racine, donc ne pas dire ces paroles. Donc par grossière, il peut s'agir de paroles plutôt à caractère sexuel ou des injures, ce qu'on appelle des gros mots. Et donc attention à ne pas utiliser ces termes, que ce soit en présence de chrétiens qui sont autour de nous, qui vont se dire « Ah, en fait, on pourrait en dire en tant que chrétien », ou de non-chrétiens qui vont se dire « Ah, en fait, ils en disent comme nous ». Ne disons pas également de paroles stupides. Quand on parle beaucoup, on multiplie le risque de dire des bêtises et j'en sais quelque chose. Et soyons donc plus promptes à écouter plutôt qu'à parler. Et comme je dis souvent, ce n'est pas pour rien qu'on ait deux oreilles et une seule bouche. Et enfin, troisième type de paroles, les paroles équivoques, ce qui a été traduit aussi par plaisanterie. Ce sont des paroles qui sont ambiguës, avec un humour à la moralité plutôt douteuse. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'un chrétien ne doit pas avoir d'ambiguïté dans son discours, ne pas faire preuve d'ironie, de cynisme, par exemple, et ne doit pas dire de paroles douteuses vis-à-vis de l'autorité des Écritures, par exemple. Et donc Paul, il oppose toutes ces paroles qui sont mauvaises, et il dit qu'il faut plutôt faire des paroles de reconnaissance. Utilisons plutôt que de faire du mal entre nous, utilisons plutôt notre langue pour nous édifier, pour transmettre une grâce, comme c'est écrit au Éphésiens 4, verset 29, mais aussi pour remercier Dieu dans la prière avec ce qu'on appelle dans ce verset des actions de grâce. Et enfin, au verset 5, Paul y rebondit sur tout ce qu'il vient de dire au verset 3 et 4. Il rappelle qu'aucun homme qui est dans l'un de ces trois péchés du verset 3, donc immoralité sexuelle, impureté et soif de posséder, et donc il est dans l'idolâtrie, il a placé ces choses-là au-dessus de Dieu. Et donc, il n'a pas d'héritage dans le royaume de Dieu. Ce qu'il faut comprendre pour l'application pour nous aujourd'hui, c'est qu'en clair, un non-chrétien qui naturellement se tournera vers ses péchés n'est pas converti. Il n'a pas cru au pardon de ses péchés. Et si c'est ton cas, aujourd'hui, je t'invite à pousser tes recherches, à lire la Bible avec l'un de nos membres ici, à poser des questions. Et si tu cherches Dieu de tout ton cœur, il se laissera trouver à travers sa parole. Mais une personne qui se dit chrétienne et qui pratique l'un, alors ça c'est le deuxième type de personne, qui pratique l'un de ces trois péchés et ne les combat pas, j'insiste vraiment sur ne pas les combattre, on peut très bien être dans l'un de ces péchés et combattre, mais qui se laisse faire, qui dit non mais c'est pas grave, Dieu est même comme ça, peut réellement se poser des questions sur son salut et donc sur l'héritage dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que Paul en parle ici. En effet, c'est à ses fruits, cette image du fruit que Jésus lui-même utilisait, qu'on reconnaît les œuvres d'un chrétien. Et si un chrétien n'est pas en train de faire les œuvres de Jésus, à savoir, vous connaissez les deux commandements de Jésus, Matthieu 22, verset 37 à 40, « Tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Si un chrétien n'est pas en train de faire ces choses-là, et qu'il n'obéit pas non plus à ce que dit Jésus dans Matthieu 28, faire des disciples qui vont faire d'autres disciples, il y a de grandes chances qu'il a placé une idole au-dessus de Dieu, et que ce soit l'un de ses trois péchés ou une autre idole, c'est pas exhaustif. Et si c'est ton cas aujourd'hui, je t'invite à le confesser, à te repentir, à laisser Dieu te pardonner. Non pas te pardonner parce que tu le mérites, mais parce que Jésus a déjà payé le prix pour toi. Regardons maintenant la deuxième partie qui est marcher, s'il te plaît Denis, marcher dans la lumière. Donc dans cette deuxième section que je vous propose d'aborder, Paul en fait il parle de la distinction. Alors vous avez déjà le tableau. Entre d'un côté les chrétiens qui sont sauvés, qui sont dans la lumière, et de l'autre côté les non-chrétiens qui sont perdus, qui sont dans les ténèbres. Et plutôt que d'aller verset par verset, je propose de d'abord comprendre cette distinction qui est faite avec ce tableau, de comprendre ensuite certaines explications de termes importants, et enfin de voir qu'est-ce que Paul veut dire à travers son exhortation. Voilà, on ne va pas aller verset par verset. Donc, distinction chrétien à gauche, colonne droite, non chrétien. Le chrétien n'est plus sous la colère de Dieu. Il n'est donc pas rebelle, alors que le non chrétien, quand on voit verset 6 jusqu'au verset 14, il est sous la colère de Dieu. Le chrétien était autrefois ténèbres, maintenant il est lumière. Le non chrétien et dans les ténèbres. Le chrétien porte du fruit, la bonté, la justice, la vérité, et j'ai pas mis, mais il y a aussi Galates 5, 22 qui parle du fruit de l'esprit. Et le fruit du non-chrétien, bah, c'est le contraire, la méchanceté, l'injustice et le mensonge. Et le père du mensonge, nous savons que c'est l'ennemi, que c'est Satan. Est-ce que tu peux passer ce pédonier ? On va voir plusieurs explications de notions vraiment essentielles. La colère de Dieu. C'est bizarre de parler de la colère de Dieu, mais c'est essentiel. Le problème que Jésus est venu résoudre sur terre, c'est principalement la colère de Dieu. Parce que Dieu était en colère, il fallait le sacrifice de Jésus qui permette de satisfaire à sa colère. Il fallait un sacrifice parfait, c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on l'a déjà vu, hein, quand on a étudié Panorama, mais quand vous lisez Hébreux en ce moment, vous le voyez aussi, il y avait des sacrifices qui étaient faits dans Lévitique, qui à chaque fois étaient là pour couvrir le péché. Il y avait une expiation qui était faite. Et c'était pour satisfaire la colère de Dieu. Et Jésus-Christ est le sacrifice ultime, une bonne fois pour toutes. Et c'est ce qu'on appelle la propitiation. Propitiation, le fait de rendre Dieu propice. Et c'est représenté dans l'Arche de l'Alliance. Quand vous regardez dans le lieu très saint, vous avez le propitiatoire avec les deux chérubins sur lequel régnait la présence de Dieu. Et c'est le même symbole qui est utilisé, le propitiatoire. Les croyants ne sont donc plus au bénéfice, grâce au bénéfice de Jésus-Christ, les croyants ne sont donc plus sous la colère de Dieu. Ils sont réconciliés avec lui. En revanche, les non-croyants, eux, sont encore sous le coup de la colère de Dieu. Une autre distinction, les ténèbres et lumière. Les croyants, autrefois dans Éphésiens 2, versets 1 à 3, il dit qu'ils étaient morts à cause de leur faute, de leur péché, qu'ils pratiquaient autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde. Et il dit que nous tous aussi, nous étions de leur nombre, notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, nous accomplissions les volontés de la nature humaine, de nos pensées, etc. Nous étions parmi eux, en fait, nous étions ténèbres. Les croyants, autrefois, étaient ténèbres. Mais maintenant qu'ils sont nés de nouveau, les croyants sont lumière. Et on voit ça dans Matthieu 5, versets 13 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Et dans les ténèbres, les non-croyants pensent que leurs péchés sont cachés, qu'ils ne sont pas vus. Cependant, Dieu est omniscient. Il les voit. Il est donc honteux d'en parler. Et c'est pour ça que Paul dit de ne pas parler de ces choses au verset 3. Et plus nous allons nous rapprocher de Dieu et de sa lumière, plus celle-ci va briller, mais plus celle-ci va éclairer les ténèbres, y compris nos ténèbres. Et enfin, Paul cite un cantique de l'Église primitive. Il dit au verset 14, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ éclairera. » Paul se faisait tout à tous. Il n'hésitait pas à citer un poète grec dans Actes 17 quand il est à Athènes. Et là, dans le contexte de l'Église d'Éphèse, il leur cite un cantique qui était connu d'eux. Il parle de réveil parce que le non-croyant est spirituellement mort ou spirituellement endormi. Et avec le réveil, il est né de nouveau. Et pourquoi comment nous ressuscitons ? En fait, c'est quand Christ nous illumine, il est en train de dire que nous ressuscitons alors pour passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Est-ce que Denis, tu peux passer, s'il te plaît ? Dernière partie, ce sont les exhortations de Paul. Et nous allons voir comment on peut se l'appliquer aussi à nous aujourd'hui. Se conduire comme des enfants de lumière. Donc nous avons vu tout à l'heure que nous étions avant ténèbres et maintenant nous sommes lumière. Donc si nous sommes des enfants de lumière, comportons-nous comme des enfants de lumière. Si nous sommes chrétiens, comportons-nous comme des chrétiens. Portons donc du fruit, bonté, justice, vérité, également le fruit de Galates 5, 22. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi. Aujourd'hui, cherchons aussi à avoir ce comportement qui reflète notre foi. Au travail, par exemple, lorsque nous n'avons pas toujours des occasions de parler de notre foi, je pense qu'il est toujours possible de témoigner par notre comportement. Exemple, j'ai mangé avec des collègues dans un resto pizzeria, donc on a très bien mangé dans le 16e, et à la fin, voilà, j'ai dû payer ma part. Et à ce moment-là, l'un des serveurs me rend l'argent et je compte. Et dans ma tête, je fais, ah, je crois qu'il s'est trompé. Bon, je vais vérifier. Donc, je sors du resto. Je regarde, je compte. Je fais, ah, mais il m'a donné 1 euro en trop. Et les gens autour de moi, ils me disaient, bah, c'est pas grave, t'as qu'à le garder. Je fais, ah non, mais je peux pas et tout. Après, du coup, je suis retourné. Je fais lui rendre 1 euro. Le gars lui-même était surpris. Il fait, ah, ok, bah, merci. Et puis après, je suis revenu. Et puis, mes collègues, ils ont fait, ah, mais genre, pourquoi t'as fait ça? Et ce que j'ai dit, c'était la première semaine, hein, j'ai pas directement dit, je suis chrétien, je suis en train de te montrer que je suis honnête parce que la parole de Dieu me le commande dans Proverbe 13, verset 6. Non, j'ai pas fait ça. J'ai dit, bah non, ça se fait pas, il faut savoir être honnête, quoi. Voilà, j'ai juste dit ça. Ensuite, ne pas se laisser tromper par des paroles sans fondement et discerner ce qui est agréable à Dieu. Au verset 6, on voit que Paul parle de personnes qui pourraient tromper l'Église par des vains discours. Et ces paroles ne sont pas fondées sur le fondement, du coup, des apôtres. Ce sont des fausses doctrines. Et elles ont pour conséquence d'entraîner les croyants, non seulement dans l'erreur théologique, mais s'ils se trompent dans l'erreur théologique, ils vont faire une erreur pratique aussi. Le chrétien doit donc faire preuve de discernement par rapport à ces paroles. Son but, c'est de viser ce qui est agréable à Dieu et non les œuvres des ténèbres. Là où il était avant de connaître Christ, il était ténèbres. Et récemment, je suis allé voir des témoins de Jéhovah qui étaient devant notre gare de RER à Nogent-Perreux. Et j'ai fait le non chrétien en fait. Je suis allé les voir. Ah, mais pourquoi vous faites ça? C'est intéressant. On fait ça parce que voilà, on aimerait que les gens connaissent la Bible. Ah, ok. Mais vous faites pas. Enfin, j'ai des amis qui sont chrétiens et ils m'ont dit que c'est parce que vous voulez faire partie des 144 000 personnes de l'Apocalypse. Hein, ils se regardaient comme ça. Non, mais on fait ça. Il y aura 144 000, mais c'est sûr, on ne sera pas dedans. Nous, on sera parmi ceux qui vont rester sur la terre parce que la terre est éternelle. Ah bon, mais c'est écrit où que la terre elle est éternelle? Parce que je crois que si on regarde dans votre Bible, vous avez une Bible? Oui, oui, on a une Bible, bien sûr. On regarde la Bible. Apocalypse 21, verset 1, 2. Ah, mais vous avez l'air de bien connaître la Bible, monsieur. Oui, je me débrouille un peu, voilà. Et du coup, on regarde. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, vous connaissez la suite. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de deuil, ni cris, ni douleurs, etc. On est d'accord, ça parle de la nouvelle terre, du nouveau ciel. Parce que l'ancienne terre, il n'y aura plus. Ils disent, non, n'importe quoi. Ça s'applique pour que nous, on puisse comprendre aujourd'hui qui sommes dans l'ancienne terre, que là-bas, il n'y aura pas de pleurs, mais qu'ici non plus, il n'y aura pas de pleurs. Je dis, arrêtez, franchement, je suis assez logique et c'est vraiment bizarre, quoi. Enfin, vous n'arrivez pas à me démontrer. Et leur discours, en fait, quand on regarde, connaissez Jésus, connaissez le sens de la vie, ça semble très proche de notre discours quand on va parler aux gens. Mais en réalité, c'est une fausse doctrine. Voilà. C'est vraiment important de savoir discerner ce qui est bon et ce qui est faux. N'avoir aucune part avec eux, ne pas participer aux œuvres stériles des ténèbres. Paul appelle les croyants à ne pas s'associer avec les non-chrétiens, bien qu'ils ont des paroles qui, des fois, peuvent ressembler à de la doctrine chrétienne, mais ils sont en réalité restés dans les ténèbres. Et en fait, quand on s'associe avec des non-chrétiens, ça peut avoir deux conséquences. La première, c'est être soi-même influencé et donc perverti. Par exemple, des collègues qui parlent de leurs ébats de la nuit, ça ne me regarde pas, enfin, je veux dire, voilà. Sauf que ça peut me faire chuter. Et la deuxième conséquence, c'est que je peux cautionner ce qui est dit. Ah ok, ça ne choque pas, c'est normal, alors il est d'accord avec nous. Voilà. Donc indirectement, dans les deux cas, nous participons à leurs œuvres stériles qui conduisent au péché. Alors, ce que je dis, attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus côtoyer les non-chrétiens, mais c'est surtout savoir faire preuve de discernement, de savoir si c'est nous qui allons les influencer ou si c'est eux qui vont nous influencer. Et dans ce dernier cas, je pense qu'il vaut mieux changer de compagnie. Moi, personnellement, vous savez, j'ai fait des études en école d'ingénieur à Compiègne. Et en première année, j'avais un groupe d'amis. On était 15, donc c'était un groupe de potes. Ils n'étaient pas chrétiens, mais ils étaient sympas. Et puis, du coup, on a fait pas mal de choses ensemble. Et j'allais avec eux. J'étais assez influencé, donc j'avais 19 ans. J'allais dans les bars, j'allais en boîte de nuit. Oh, mais à l'époque, j'étais pas chrétien. Enfin, si, mais pas encore assez mature. Et ma maman a prié pour que je rencontre des amis chrétiens du GBU. afin que je prenne plus de recul par rapport à ce groupe d'amis qui m'influençait. Et en fait, ça s'est passé. Petit à petit, je me suis de plus en plus investi dans le groupe biblique universitaire de Compiègne. Et petit à petit, je voyais de moins en moins mes amis. Et dès qu'ils ont vu que j'étais plus ancré dans ma foi, ils étaient moins intéressés à passer du temps avec moi. Et aujourd'hui, je n'ai plus aucun lien avec eux. Alors qu'à l'époque, la première année, je me disais, mais c'est sûr, on va rester potes toute notre vie. Enfin, donc attention, la prière d'une maman est vraiment efficace. Voilà. Et Laurent est d'accord. Dernière chose, démasquer les œuvres mauvaises. Paul appelle les chrétiens d'Éphèse à démasquer ces œuvres de ténèbres, c'est-à-dire les dénoncer. Et en fait, des fois, quand on est chrétien et qu'on reste silencieux, on est en train de signifier notre approbation par rapport à ce qui se passe. Or, Dieu veut que nous défendions sa justice avec amour. En tant que chrétien, nous nous devons de défendre les personnes les plus démunies, les personnes qui... Alors, dans le Nouveau Testament, par exemple, c'est la veuve et l'orphelin, d'après Jacques. Mais lors de mon voyage missionnaire, pour ceux qui savaient, j'étais en juillet avec le R2E, et on est parti à Amsterdam. On allait visiter le ministère de Jeunesse en Mission à Amsterdam, qui était auprès des prostituées dans le quartier rouge, pour ceux qui connaissent. Et en fait, dans ce quartier... Et en fait, Jeunesse en Mission, ils ont des missionnaires qui vont parler, discuter avec ces femmes. Alors, la prostitution, c'est un travail qui est légal là-bas, mais au fond, les femmes sont vraiment forcées à le faire parce qu'elles n'ont rien d'autre, en fait. Et du coup, elles sont vraiment mal vues par toute la société. Et justement, les missionnaires, qui sont souvent des femmes, du coup, de Jeunesse en Mission, mais aussi certains hommes, des fois, sont là vraiment pour les restaurer, en fait, pour les aider. Et ça, c'est vraiment prendre soin des autres personnes qui sont des fois, qui se sentent vraiment inférieures à nous, alors qu'elles ne le sont pas, mais à cause de ce qu'elles font comme travail. Et c'était vraiment touchant, parce qu'à un moment donné, on parlait à une de ces missionnaires, et elle disait, nous, ce qu'on fait des fois, on fait un repas de Thanksgiving, donc pour ceux qui connaissent, et on invite toutes les femmes, et on les fait venir dans un salon, et c'est des hommes qui cuisinent pour elles, et c'est des hommes qui les servent à manger. Et ça, ça les touche parce qu'ils n'ont jamais vu des hommes qui étaient aussi serviables, en fait. Voilà. Ça, c'est des choses, par exemple, qui sont faites. Démasquer, dénoncer ses œuvres et servir les personnes qui sont affectées par ses œuvres mauvaises. Est-ce que tu peux passer, Denis ? En conclusion, aujourd'hui, nous avons vu comment vaincre les ténèbres du péché à la lumière de Christ. D'abord, en coupant le péché à sa racine, clic ! Et donc, ne pas parler des choses pouvant nous faire tomber, de peur de nous-mêmes, ensuite tomber dans l'idolâtrie, et en marchant dans la lumière, c'est-à-dire avoir un comportement de chrétien qui brille, ne pas prendre part aux ténèbres, mais plutôt démasquer ce qui se fait dans les ténèbres. Et j'aimerais encore juste apporter une petite précision. J'ai déjà dit plus haut, enfin avant, que ne pas prendre part aux ténèbres ne signifie pas forcément ne plus avoir du tout de contact avec vos amis non chrétiens. Ça serait impossible. Jésus lui-même enseignait à ses disciples à se montrer amicaux envers les pécheurs et à les conduire à lui. Nous sommes donc appelés à nous lier d'amitié avec nos amis non chrétiens, avec l'espoir de les amener à Christ, bien sûr. Mais méfions-nous juste de ceux qui ont le plus de chances de nous influencer que le contraire. Sachons faire preuve de discernement pour savoir s'il faut mieux changer de compagnie, parce que Paul y dit lui-même, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. N'oublions jamais d'où nous venons, c'est-à-dire des ténèbres, et ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour nous. Il nous a délivrés. Ne marchons donc plus selon les ténèbres, marchons dans la lumière, afin que nous puissions briller et éclairer le monde autour de nous. Je vous invite à prier. Seigneur, entre Dieu, je te remercie encore de ce que tu nous permets d'entendre ce message, Seigneur. Je te prie pour que tu nous aides à sonder notre cœur, que nous puissions regarder s'il y a des péchés qui ne doivent pas même être nommés, des péchés qui doivent être confessés, des paroles qui n'auraient pas dû être dites. Seigneur, sonde nos cœurs, Seigneur. Et Seigneur, montre-nous aussi comment nous pouvons te demander pardon, comment nous pouvons être restaurés aussi. Et montre-nous aussi comment marcher dans ta lumière, Seigneur, pas d'une lumière artificielle que nous faisons nous-mêmes, pas selon nos standards, mais selon tes standards. Aide-nous à marcher comme toi tu as marché, Seigneur. Aide-nous à aimer les uns les autres. Aide-nous à t'aimer plus que tout. Aide-nous à faire des disciples qui vont faire d'autres disciples, Seigneur. Et prends soin encore de nous durant cette journée et jusqu'à la fin de notre vie. Je te prie en nom de Jésus. Amen.